Bonjour à vous tous qui êtes dans cette basilique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'archiconfrérie. Mais je vais vous parler de sa naissance telle que l'abbé Desgenettes nous l'a racontée. Et vous allez voir, vous allez peut-être être surpris, comme je l'ai été moi-même la première fois que j'ai lu ses écrits. Alors, l'archiconfrérie a pris naissance le 3 décembre 1836. Beaucoup de personnes qui ne jugent que d'après les apparences nous en appellent le fondateur. Nous ne sommes point le fondateur. À Dieu seul l'honneur et la gloire. Nous n'avions aucune des dispositions d'esprit et de cœur qui pouvaient nous y préparer. Loin de là. Nous devons confesser en demandant pardon à Dieu et à Marie que nous, enfants de Marie, habitués dès notre plus jeune enfance à l'aimer, à la vénérer comme la plus tendre des mères, nous ne comprenions rien à la dévotion à son saint cœur, que nous évitions même d'y penser. Nous ajouterons encore qu'un saint religieux, le père McCarthy, ayant prêché dans notre église des missions étrangères un sermon sur le Saint-Cœur de Marie, nous ne recueillîmes de son sermon aucun sentiment, donnant notre suffrage ordinaire à l'éloquence du prédicateur. Mais, fâchés, tant était grand l'orgueil de notre prévention qu'il eût traité un tel sujet que nous pensions n'être pas plus utiles aux autres qu'à nous. Telle a été notre disposition constante jusqu'au 3 décembre, fête de Saint François Xavier. Ce jour-là, à 9h du matin, je commençais la Sainte Messe au pied de l'autel de la Sainte Vierge. J'en étais au premier verset du psaume judicamé quand une pensée vint saisir mon esprit. C'était la pensée de l'inutilité de mon ministère dans cette paroisse. Dans cette circonstance, elle me frappa plus vivement qu'à l'ordinaire. Comme ce n'était ni le lieu, ni le temps de m'en occuper, je fis tous les efforts possibles pour l'éloigner de mon esprit. Je ne pus y parvenir, et il me semblait entendre continuellement une voix qui venait de mon intérieur et qui me répétait « Tu ne fais rien ». Ton ministère est nul. Vois, depuis plus de 4 ans que tu es ici, qu'as-tu gagné? Tout est perdu. Son peuple n'a plus de foi. Tu devrais par prudence te retirer. Et malgré tous mes efforts pour repousser cette malheureuse pensée, elle s'opiniâtra tellement qu'elle absorba toutes les facultés de mon esprit au point que je lisais, je récitais les prières sans plus comprendre ce que je disais. La violence que je m'étais faite m'avait fatiguée et j'éprouvais une transpiration des plus abondantes. Après avoir récité le Sanctus, je m'arrêtai un instant. Je cherchais à rappeler mes idées. Effrayée de l'état de mon esprit, je me dis « Mon Dieu, dans quel état je suis ?» Comment vais-je offrir le divin sacrifice? Je n'ai pas assez de liberté d'esprit pour consacrer. Ô mon Dieu, délivrez-moi de cette malheureuse distraction. Et à peine eus-je achevé ces paroles que j'entendis très distinctement ces mots prononcés d'une manière solennelle. Consacre ta paroisse au très saint et immaculé cœur de Marie. À peine eus-je entendu ces paroles qui ne frappèrent point mes oreilles, mais retentirent au-dedans de moi, que je recouvrais immédiatement le calme et la liberté de l'esprit. Je continuai la célébration des saints mystères sans aucun souvenir de ma précédente distraction. Après mon action de grâce, j'examinai la manière dont j'avais offert le saint sacrifice. Alors seulement, je me rappelais que j'avais eu une distraction, mais ce n'était qu'un souvenir confus et je fus obligée de rechercher pendant quelques instants quel en avait été l'objet. Je me rassurais en me disant « Je n'ai pas péché, je n'étais pas libre ». Je demandais comment cette distraction avait cessé et le souvenir de ces paroles que j'avais entendues se présenta à mon esprit. Cette pensée me frappa d'une sorte de terreur. Je bataillais avec moi-même pendant 10 minutes. Je me disais, quelle fatale pensée! Si je m'y arrêtais, je m'exposerais à un grand malheur. Elle affecterait mon moral. Je pourrais devenir visionnaire. Fatiguée de ce nouveau combat, je pris mon parti et je me dis, je ne puis m'arrêter à cette pensée, elle aurait trop de fâcheuses conséquences. D'ailleurs, c'est une illusion. J'ai eu une longue distraction pendant la messe, voilà tout. Et j'appuie mes mains sur le prie-Dieu, sur lesquels j'étais à genoux, et au moment même, j'entends prononcer bien distinctement ces paroles. Consacre ta paroisse au Saint et Immaculé Cœur de Marie. Ma première impression fut un moment de stupéfaction. C'étaient les mêmes paroles, le même son, la manière de les entendre. Il y a quelques instants, j'essayais de ne pas croire. Je voulais au moins douter. Je ne le pouvais plus. J'avais entendu, je ne pouvais me le cacher à moi-même, et un sentiment de tristesse s'empara de moi. Les inquiétudes qui venaient des tourments, de tourmenter mon esprit se présentèrent à nouveau. J'essayais vainement de chasser toutes ces idées. Je me disais, c'est encore une illusion, fruit de l'ébranlement donné à ton cerveau par la première impression que tu as ressentie. Alors je précise quand même que le père n'était pas sénile, il avait 58 ans. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas pu entendre. Et je pris le parti de ne point m'occuper de ce qui venait de m'arriver et de tâcher de l'oublier. Mais ces paroles, consacre ta paroisse au très saint et immaculé cœur de Marie, se présentaient sans cesse à mon esprit. Pour me délivrer de l'impression qui me fatiguait, je cédais de guerre lasse et je me dis c'est toujours un acte de dévotion à la Sainte Vierge qui peut avoir bon effet. Essayons. Mon consentement n'était pas libre. Il était exigé par la fatigue de mon esprit. Je rentrais dans mon appartement pour me délivrer de cette pensée. Et je me mis à composer les statuts de la future association. Et à peine eus-je mis la main à la plume que le sujet s'éclaircit à mes yeux et les statuts ne tardèrent pas à être rédigés. Voilà la vérité. Et nous ne l'avons pas dite dans les premières éditions du manuel. Nous l'avons même cachée au directeur de notre conscience. Nous en avons fait jusqu'à ce jour un secret, même aux amis les plus intimes. Nous n'osions pas le dévoiler. Et aujourd'hui, que la divine miséricorde a signalé si authentiquement son œuvre par l'établissement de la prodigieuse propagation de l'archiconfrérie et surtout par les fruits admirables qu'elle produit, ma conscience m'oblige à révéler ce fait. Alors vous voyez ce qu'il raconte, ce sont ses mots à lui bien sûr. Peut-être que notre langage a évolué par rapport au XIXe siècle. Mais ce qu'on peut retenir de ce récit, c'est qu'il a mené un vrai combat. Ça n'a pas été facile. Comme moi, la première, je l'ai cru. Ça a été très, très dur. Et à tel point qu'il n'en a parlé à personne. Il l'a révélé 2 ans après seulement. Je continue avec le père d'Eginette. Il est glorieux, disait l'archange Raphaël à Tobie. Il est glorieux de révéler les œuvres de Dieu afin que tous reconnaissent qu'à lui seul appartiennent la louange, l'honneur et la gloire. Bon, alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les statues dressées, le père d'Eginette vint les soumettre à l'approbation de l'archevêque de Paris de l'époque, Monseigneur de Quélen, qui les approuva, et ce qui permit de commencer les prières et les exercices le dimanche 11 décembre. Alors, cette journée, le père va l'appréhender avec défiance, car il doute du succès de sa démarche. Alors, je lui redonne la parole. La paroisse de Notre-Dame des Victoires, située au centre de Paris, centre elle-même du commerce et des affaires, entourée de théâtres et de lieux de plaisir, devenue le point central d'où partaient et où aboutissaient les mouvements politiques qui ont agité Paris pendant tant d'années. La paroisse de Notre-Dame des Victoires avait vu s'éteindre dans son sein presque tout sentiment, toute idée religieuse. Son église était déserte, les sacrements, les pratiques religieuses étaient abandonnées. Rien ne semblait mettre un terme à ce déplorable état. Donc le 11 décembre 1837, le père annonce à la messe du matin qu'il y aura le soir à 19h un office pour implorer de la miséricorde divine par la protection du cœur de Marie, la grâce de la conversion des pécheurs. Cette annonce est faite devant 10 personnes. C'était la messe dominicale, hein. Il y avait 10 personnes. Alors, petite anecdote, en 1894, un vieux monsieur écrivait: j'avais l'honneur d'assister à la grand-messe le 11 décembre 1836, quand M. Desgenettes annonça la réunion du soir. Nous étions 11 en comptant le célébrant. Alors, toute la journée, le père oscille entre inquiétude et lueur d'espérance. Il espérait malgré tout la venue de 50 à 60 personnes. À l'heure dite, il arrive à l'église. Il ouvre la porte et il trouve 4 à 500 personnes réunies. Dans cette assistance se trouvait un nombre considérable de messieurs, dont la plupart ne savaient pas de quoi il s'agissait. Donc les vêtements de la Sainte Vierge furent entendus avec une certaine indifférence. Et cependant, la foule des fidèles chanta avec beaucoup de cœur les prières du salut qui suivaient une instruction expliquant les motifs et le but de la réunion. Il y eut un redoublement d'ardeur pendant les litanies et au chant de l'invocation « Refugio ».